Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bienvenue dans l'émission On en parle sans tabou, votre émission de témoignage autour des sujets de société. Aujourd'hui, le cancer du sein, on en parle sans tabou. C'est le cancer le plus fréquent chez la femme. Près de une femme sur huit le développe au cours de sa vie. Plus il est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées. On observe 99% de survie à 5 ans, pour un cancer détecté au stade précoce. L'âge et le sexe, principaux facteurs de risque du cancer du sein. Près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. 99% des cancers du sein surviennent chez la femme. La durée d'exposition aux hormones féminines, avec en particulier la prise de certains traitements hormonaux substitutifs, de la ménopause, semble être un facteur de risque. D'autres facteurs de risque sont débattus, les règles précoces avant 12 ans, la ménopause tardive après 50 ans, absence de grossesse ou grossesse tardive après 35 ans, ou aussi l'absence d'allaitement. Alors les sources sont Amélie, le 10 mai 2021. Aujourd'hui, pour en parler, nous recevons toujours le docteur Fanny Bauer-Motti, docteur en psychologie clinique et psychopathologie, psychologue, psychanalyste et auteur de nombreux ouvrages, notamment « Tout commence par une pensée ».
Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs.
Nous avons aussi Aurore Fauer.
Personne n'a jamais quasiment réussi à le prononcer depuis que je suis née. Donc c'est Feuer.
Feuer, merci. Nous avons aussi du coup Aurore Feuer, vice-présidente de l'association Étincelle, qui offre depuis plus de 15 ans des soins de support à plusieurs milliers de femmes atteintes de tout type de cancer. Et nous recevons avant tout Caroline, 42 ans, mariée et maman d'une petite fille de 8 ans. Patiente partenaire pour l'association Étincelle et entrepreneuse, on en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, elle a accepté de témoigner à notre antenne. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Caroline, encore un problème de démarrage, hein. nous t'écoutons.
Ok. Je m'appelle Caroline, effectivement j'ai 42 ans et mon cancer du sein a été diagnostiqué à l'âge de 39 ans, ce qui est de moins en moins rare et au contraire je croise de plus en plus de jeunes femmes malheureusement dans les couloirs des hôpitaux. Il a été diagnostiqué suite à une boule que j'ai simplement palpée moi-même un soir en me déshabillant, ce qui montre encore l'importance de l'autopalpation dans la prévention et le dépistage du cancer du sein, puisque grâce à ça, en fait, il a pu être diagnostiqué tôt. Malheureusement, il était déjà trop étendu en dessous la peau et s'est suivi un parcours de soins on va dire plutôt classique par rapport à un cancer, c'est-à-dire que après le diagnostic et tout le bilan d'extension qui a été fait, c'est-à-dire les biopsies, les IRM et tout ça, le protocole de soins qui m'a été annoncé a été chimiothérapie, mastectomie, sans reconstruction immédiate puisque j'allais avoir des séances de radiothérapie derrière et que comme ça influe sur la peau et qu'il y a des risques de brûlure, je n'ai pas eu de reconstruction. De la thérapie ciblée pendant un an avec des injections toutes les trois semaines. Et là, je suis sous hormonothérapie depuis un an et demi et je vais encore y avoir le droit pendant 8 ans.
Pendant 8 ans ?
Pendant 8 ans, voilà. D'accord. Parce que le type de mon cancer fait que le taux de récidive est plutôt élevé et que pour me préserver de tout risque de rechute, cette hormonothérapie, je dois la prendre encore pendant 8 ans.
Alors, tu nous disais, Caroline, que tu as décelé que ce cancer a été décelé
ouais, ouais.
À l'âge de 39 ans. Comment ça se passe à ce moment-là pour toi ?
Un peu la douche froide, parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'on entend et ce que je vois dans les supports médias ou autres, ou même dans les films, je me dis, un cancer du sein, c'est pour les vieux, pour les vieilles, enfin, c'est pas possible. Je dis les vieux aussi, puisque ça touche 1% des hommes sur l'ensemble des cancers. Et quand j'arrive à l'hôpital, que je vois qu'après la mammographie et l'échographie, on me dit qu'il faut que j'aille faire une biopsie parce qu'il y a quelque chose de suspect. Tout de suite, en fait, je fais ce qu'on ne doit pas faire, c'est-à-dire que j'ai été sur Internet et docteur Google pour essayer de comprendre le compte-rendu de la mammographie qu'on m'avait donné, puisqu'on laisse la patiente partir avec ce compte-rendu dans l'attente des prochains examens. À la lecture de ce compte-rendu, j'ai compris qu'il fallait que je m'attende à quelque chose d'assez grave. Donc après, les rendez-vous s'enchaînent à l'hôpital. On est pris en charge. Donc moi, j'ai été pris en charge à l'hôpital Tenon, dans le 20e. On est pris en charge de bout en bout. Ce qui peut être bien pour certaines patientes, c'est-à-dire qu'on nous donne la liste de tous les rendez-vous. On rentre dans une spirale, un peu dans un engrenage qui peut paraître très confortable, mais qui en fait est très déshumanisant par moment. Et pour moi, qui avais l'habitude de gérer un peu toute ma vie et d'anticiper toutes les choses, là je me suis retrouvée à subir un peu tout ce parcours, et ça a été assez compliqué sur la première partie. Pour en revenir à la première question, du coup, ça s'est passé en période de Covid, donc aussi compliqué à gérer puisque j'ai dû faire les rendez-vous seule. Mes copines voulaient m'accompagner sur les premières chimiothérapies, ce qui n'était pas possible. Sur les rendez-vous oncologiques, c'est pareil, il a fallu que je les fasse seule. Alors, il y en a quelques-uns où j'ai pu faire un petit FaceTime avec mon mari, puisque quand on est en rendez-vous face à un oncologue ou à un chirurgien, quand ils nous annoncent le diagnostic ou quand ils annoncent le protocole à venir, au bout de 5 minutes, on fait un petit blackout. Et en fait, on ne percute plus les informations qu'on nous donne. Donc, sur un des premiers conseils que je pourrais donner, si vous pouvez vous faire accompagner pour tous les rendez-vous, franchement, faites-le, parce que moi, je n'ai pas pu le faire et ça a été assez pénible derrière de pouvoir remettre mes idées en place et de savoir un peu où j'allais.
Fanny, face à cette nouvelle de... Voilà, comme me disait Caroline, on donne des résultats, elle est directement allée sur internet pour se renseigner. Est-ce que il y a pas un peu un petit trou psychologique si je peux appeler ça comme ça, à travailler à ce moment-là?
Effectivement, je pense que, comme Caroline le disait justement, il vaut mieux éviter d'aller déjà sur Internet, parce que sur Internet, on va avoir les personnes qui sont en souffrance, qui cherchent des réponses et qui donc témoignent de souvent des situations dramatiques. Mais on a aussi tout l'autre côté où il y a des hommes et des femmes qui avancent, qui survivent, pour qui ça s'est peut-être passé mieux ou autrement. Et concernant l'annonce, on le sait aujourd'hui à quel point la psychologie influence la manière dont on va vivre le cancer. Et parfois, on a face à nous des médecins qui sont désarmés peut-être parce qu'ils doivent annoncer, ou aussi encore une fois la question de la formation, est-ce qu'ils sont bien formés à annoncer quelque chose d'aussi grave? Et donc on peut se retrouver avec une annonce qui est un coup de massue, et ce coup de massue peut orienter la suite du chemin. Donc effectivement, je pense que se faire accompagner, c'est très important. Même en situation de Covid, je pense qu'il aurait fallu autoriser à ce que les hommes et les femmes qui font face à ça soient accompagnés. Parce que moi, je vois une grande différence face à moi, dans mon métier, entre ces hommes et ces femmes qui ont eu un diagnostic très lourd, mais où le côté psychologique a été bien fait, bien mis en place, et ceux qui se sont retrouvés avec un diagnostic très grave et où il n'y a pas eu d'accompagnement. Et donc il est aussi important de préciser que le médecin donne un diagnostic qui n'est pas forcément un pronostic, c'est-à-dire que le médecin dit quelque chose qu'il croit voir, mais on voit aussi beaucoup de situations où finalement des personnes qui avaient un cancer du sein ont été condamnées et elles sont en vie. Et moi, j'en ai vu face à moi, même dans le cadre d'un livre que j'écris, des personnes qui étaient condamnées, et ça fait 15 ans, 20 ans qu'elles vivent. Donc il faut arriver à prendre un peu de distance par rapport au diagnostic et puis effectivement trouver peut-être des ressorts parallèles à côté qui puissent accompagner tout ce qui est la chimiothérapie, la radiothérapie et tout ce qui peut être très lourd et parfois déshumanisant, parce que parfois quand on est beaucoup dans les hôpitaux, on peut se sentir presque uniquement que sa maladie, alors que l'on reste soi avec sa propre identité, ses projets, sa vie de maman, sa vie de professionnelle. Et souvent les gens que j'ai en face de moi me parlent de cette notion de temps qu'on leur vole ou de temps qu'on leur prend, parce que dans les couloirs, le temps n'existe plus. On attend parfois des heures aussi de rencontrer le médecin. Et donc, se redonner du temps, se redonner sa propre identité, ça me semble fondamental aussi dans le cheminement par rapport au cancer.
Alors, tu le dis bien, déshumanisant, c'est aussi un terme que tu as utilisé, Caroline. On donne une liste de rendez-vous, mais est-ce qu'il y a un accompagnement, une explication sur ces rendez-vous? Ça vient d'un coup, j'imagine ça chamboule toute la vie, l'emploi du temps. Comment on réagit face à ça?
Un vrai choc, c'est un traumatisme qui fait ressurgir d'anciens traumatismes. On se prend vraiment ça de plein fouet. On a évidemment, on se pose la question de la mort, de savoir est-ce qu'on va s'en sortir ou pas. Parce que le mot cancer, aujourd'hui encore, il fait peur et il est synonyme de mort pour beaucoup de personnes. Ces rendez-vous, normalement, ils doivent être expliqués. Et on doit passer par ce qu'on appelle des infirmières d'annonce, qui sont logiquement présentes dans chaque hôpital, qu'ils doivent nous rencontrer dans chaque étape importante du protocole pour nous donner les explications et nous expliquer les effets secondaires, comment on peut les pallier, etc. Bon, je ne vais pas faire le procès de l'hôpital public aujourd'hui, mais la situation est compliquée. Parfois, il y a trop de patientes, pas assez d'infirmières, et du coup, on se retrouve à devoir passer ces grandes étapes sans avoir eu ce moment où on peut échanger pour discuter et pour mieux appréhender la suite. Du coup, moi, ça s'est fait une fois sur les trois, chimio, radiothérapie et chirurgie. Je n'ai rencontré qu'une seule infirmière d'annonce. Donc voilà, après, j'ai été chercher les ressources comme je pouvais auprès d'associations ou sur Internet, sur les sites référencés qui me paraissaient sérieux et qui le sont du style Institut National du Cancer, la Ligue contre le Cancer, des choses comme ça.
Alors, tu as été diagnostiqué pendant la période du Covid.
Oui.
Et comment ça se passe justement pour, parce que tu es mariée, tu as une petite fille, comment ça se passe pour leur expliquer?
Alors,
ce qui se passe en fait.
Ok. Mon mari, il l'a tout de suite compris quand je suis sortie de l'hôpital. Il l'a vu à mon visage puisque j'étais complètement défaite. Donc on a eu une longue discussion. Pour ma fille, on a fait appel à un pédopsychiatre puisque en fait, mis à part le cancer, en fait, c'est une petite fille qui a une maladie génétique rare et des troubles autistiques. Donc il fallait que je trouve une façon de lui exprimer les choses sans lui faire peur. Et en fait, avec le pédopsychiatre, on s'est appuyé sur des livres. Il y a beaucoup de références bibliques, bibliographiques.
Plutôt.
Plutôt, hein.
Joli lapsus.
Bah ouais, on peut aussi. Et du coup, par exemple, je me suis appuyée sur le livre « Ma maman est une pirate », où par le biais d'images, j'ai pu expliquer à Charlie, qui est le prénom de ma fille, comment la maladie allait me transformer physiquement, comment j'allais me sentir et comment elle allait devoir vivre un peu avec ça, puisque c'est toute la famille qui est impactée par les traitements. En l'occurrence, avec la chimiothérapie, entre la perte de cheveux, la perte de sourcils, la prise de poids ou la perte de poids en fonction d'eux. Malheureusement, moi, ça a été la prise. On est vraiment plus que l'ombre de nous-mêmes. Mais voilà, grâce à des images, grâce à des livres qui sont dédiés aux enfants, on peut leur expliquer tout ça plus sereinement.
Et est-ce que toi aussi, du coup, ça t'a aidé un peu à mieux vivre cette maladie, cette période, de l'expliquer à ta fille?
Oui. Oui, oui, parce que en fait, le fait de prendre le temps et de me documenter avant de trouver les mots juste pour lui expliquer, ça m'a permis aussi, moi, de faire retomber la pression, de prendre un petit peu de recul. Et avec cette distance, j'ai pu en parler avec elle, avec ma famille, avec mes amis et le communiquer de manière plus tranquille.
Et Fanny, j'imagine que c'est une période assez importante entre le moment où on apprend qu'on a cette maladie et le moment où il faut l'expliquer. Comment on accompagne les patientes à expliquer, à appréhender la chose?
Bah alors, en tant que psychologue, c'est toujours déjà par l'écoute. Le sens que va donner la personne à son cancer va nous aider, nous, professionnels, à pouvoir le traduire aux personnes autour d'eux, à leurs enfants, à leurs parents. C'est difficile, parfois, d'avoir le cancer et de devoir l'expliquer et quand même d'être mal accompagné, parce que quand on parle du cancer aujourd'hui, même si maintenant je dirais qu'on comprend que cancer n'est pas synonyme de mort, souvent effectivement quand on dit j'ai un cancer aux gens qui nous aiment, eh bien ça va être beaucoup d'angoisse. Vous allez avoir ceux qui arriveront à être là et vous allez avoir ceux qui n'y arriveront pas parce que trop angoissés, parce que ça leur renvoie à une réalité en fait inacceptable. Donc parfois, moi je vois des patientes qui sont déjà en souffrance par rapport à une maladie, mais qui sont doublement en souffrance parce que autour d'elles ou autour d'hommes aussi, bah, les gens n'y arrivent pas ou n'arrivent pas à être là. Et je dirais même encore plus quand on est parent, c'est difficile de parler de ça à son enfant, puisqu'on, quand on lui en parle, on parle aussi de sa propre mort à soi, puisque la notion de mort aujourd'hui Et moi, je voudrais qu'on travaille autour du fait d'arriver autrement. La notion de mort aujourd'hui est très connectée au cancer et cancer à la mort. Donc c'est important justement qu'il y ait beaucoup de discussions, qu'il y ait beaucoup d'émissions qui montrent que finalement, le cancer peut être un passage et que ce passage peut amener parfois à mieux vivre sa vie. Et je l'ai beaucoup vu, la maladie transcende. Souvent, vous allez parler à des personnes qui ont survécu. Parce que quand on a le cancer, on dit peut-être « je survis ». Et vient le moment où on dit « j'ai survécu ». Et quand on a survécu et qu'on est capable de parler de sa maladie, souvent, moi, je vois une lumière en ces personnes. Et je remercie toujours les personnes qui ont eu le cancer que j'accompagne de pouvoir me communiquer cette lumière, parce que cette lumière, on ne la trouve pas chez tout le monde. Et je pense que c'est justement lié au fait qu'on traverse quelque chose de très dur. Il y a des moments où on va devoir être seul, parce que les gens ne vont pas forcément nous accompagner. Et quand on en ressort, on est capable de transformer cette épreuve, même dans le rapport à la vie, dans le rapport à l'essentiel, le fait de se déconnecter de ce qui pouvait être central avant et qui devient un détail, une fois qu'on a été quand même si près de quelque chose qui aurait pu être dramatique. Donc pour résumer, par rapport à ta question, moi j'accompagne mes patientes ou mes clientes, selon comment elles veulent se considérer, je les accompagne d'abord à s'écouter soi-même, à savoir qu'est-ce que ça leur fait à elles exactement, pour pouvoir un peu plus guider, quand c'est des adultes, les gens autour d'eux à les accompagner. Et quand c'est des enfants, bon, effectivement, il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui ont été faits là-dessus. On passe aussi par des jeux, mais toujours l'idée, c'est que l'enfant ne pense pas « ma maman est en train de mourir ». Parce que ce n'est pas le cas, ce n'est absolument pas le cas. Que l'enfant comprenne « ma maman traverse une épreuve, c'est une tempête, j'y suis aussi, on est sur le même bateau, ma maman est forte, ma maman se bat ». Un peu un discours où l'enfant peut avoir confiance et où son monde ne s'écroule pas.
Et j'imagine, Caroline, il a dû avoir des questions de ta fille autour du sujet. Est-ce qu'il y a la question de la mort qui a été abordée du coup ?
Non, parce que dans le livre, c'est exactement comme tu viens de le décrire, c'est-à-dire maman est sur le bateau, il y a une grosse tempête, mais maman va y arriver. Et donc à la dernière page du livre, ça montre bien que, ok, elle n'est plus pareille, mais elle est toujours là et elle sera toujours là. Et vraiment, cet esprit de combativité, bon, il est déjà assez naturel chez moi, mais c'est ce que je voulais insuffler à Charlie, parce qu'il était hors de question pour moi de lui envoyer des angoisses inutile.
Ça se ressent carrément. Du coup, toi, ça a fait l'effet lumière. Ouais. Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie?
Ah oui, complètement. Oui, déjà, il y a une reconversion professionnelle. Il y a une joie de vivre qui était déjà là avant la maladie, mais qui est encore plus exacerbée aujourd'hui. Vraiment, j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. J'ai envie de sourire. J'ai envie de rire. J'ai envie de me sentir à ma juste place. J'ai envie d'être alignée avec ce que je pense, c'est-à-dire ne plus dire oui pour faire plaisir, alors qu'au fond de moi, je n'ai pas envie de le faire, même si ça doit rendre service. J'ai surtout envie d'aider les patientes qui vont connaître des parcours de soins compliqués, et surtout qu'elles ne le subissent pas comme moi j'ai pu le subir, parce que je suis pleinement convaincue qu'en expliquant les choses, une patiente, même au moment du diagnostic, on peut lui donner les clés pour qu'elle soit actrice de son parcours de soins et qu'elle ne subissent pas tous les protocoles.
Et j'imagine, en tant que... tu parlais tout à l'heure de déshumanisation, et tu m'as aussi dit on oublie souvent la femme. En tant que femme, comment tu prends ce qui se passe?
En fait, il y a un volet très important dans le parcours pour réussir à le vivre bien, c'est qu'il faut prendre soin de sa tête et de son corps. Au-delà de la chimio et des médicaments qu'on peut nous donner. Ce qui est compliqué, parce qu'après une chirurgie, on a quand même des cicatrices. Quand on se regarde face au miroir, on n'est plus du tout la même. On passe même par une période où on a l'impression de ne plus être une femme, puisqu'on nous a enlevé l'attribut propre par lequel on définit une femme depuis toujours. Mais la féminité, ça doit rester au cœur du parcours de soins. Et c'est grâce aux soins de support d'ailleurs qu'on y arrive, même s'ils ne sont pas encore automatiques dans tous les hôpitaux et auprès des médecins qu'on rencontre, et c'est là que les associations rentrent en jeu.
Bah, tu fais bien d'en parler, on va parler de soins de support, avec toi Aurore. Qu'est-ce que sont les soins de support?
Alors, les soins de support, c'est une définition très, très large. Donc, c'est tout ce qui accompagne, en fait, le malade ou la malade au-delà des soins médicaux. Donc c'est une approche, en fait, avant tout. Parce que un soin de support, ça peut être une activité physique adaptée, ça peut être des soins psychologiques, ça peut être aussi des aides de retour à l'emploi. En fait, ça regroupe tout type d'activités qui vont accompagner les personnes sur le plan psychologique, sur le plan physique et sur le plan social. C'est très très vaste. Donc nous, ce qu'on pense, enfin, c'est que c'est une approche globale des soins, c'est-à-dire que le cancer, il y a eu beaucoup de progrès en fait de fait, mais à l'origine, on était vraiment concentré sur les soins médicaux parce que le plus important c'était de d'apporter une chimiothérapie, une radiothérapie, éventuellement une chirurgie avec mastectomie à la personne pour qu'elle puisse guérir. Il y a eu énormément de choses de fait, beaucoup d'avancées. Donc ça, c'est pour moi important de vous entendre là-dessus. Ce qui fait qu'on s'est intéressé aussi à l'accompagnement des malades. C'est-à-dire que l'association Étincelle, elle a été créée en 2004 parce qu'il n'y avait pas de soins de support, ou quasiment pas à l'époque, et ils n'étaient pas encore reconnus comme pouvant apporter quelque chose aux patients et aux patientes. Et aujourd'hui, on veut améliorer aussi la qualité de vie. C'est plus que penser guérison, penser corps. Donc ça va passer par une approche globale en fait de la personne qui va entrer à l'hôpital, se dire bah, je vais voir des médecins, je vais voir des infirmières, je vais voir des professionnels de santé. Mais en fait, c'est toute ma vie qui est chamboulée. C'est... Enfin, si on est à un âge avant la retraite, ça peut être parfois soit un arrêt très très prolongé, soit même la perte d'un emploi. Donc ça va être des questions de remise en question totale qui peuvent être soit de reconversion professionnelle comme Caroline, mais parfois de tomber dans la précarité. En fait, il y a eu des études sur le cancer deux ans après, cinq ans après. C'est pas que le moment de la maladie en fait qui est difficile, c'est tout un ensemble de choses qui chamboulent la personne, où il y a eu des dépressions en fait sont nées à distance des traitements. Et les soins de support, heureusement, aujourd'hui, sont de plus en plus reconnus comme vraiment primordiaux pour considérer la personne dans son intégralité et essayer de lui apporter la force autour de s'en sortir. Et ça, c'est à plusieurs niveaux aussi. Ça peut être la qualité de vie qui est améliorée, mais aussi l'amélioration de la manière dont on se conçoit, comme lutter contre des effets secondaires. La fatigue, ça fait partie... des choses qui sont vécues et auxquelles les médecins ont peu de... En fait, eux, ils sont vraiment des...
Ils traitent et après...
Eux, ils luttent contre la maladie, si vous voulez. Eux, ils luttent contre le cancer. Et ensuite, les effets secondaires, c'est considéré comme secondaire, alors que c'est primordial parfois dans une vie. Et il faut s'en préoccuper. Donc nous, Étincelle, avec l'association Étincelle, on a la chance d'avoir une quinzaine d'intervenants qui sont extraordinaires. Ils sont tous la foi, et ce qui est beau dans cette association aussi, c'est que la plupart des gens sont impactés soit directement, soit indirectement par le cancer. Donc c'est comme une maison, c'est comme une communauté. Et je pense que quand les gens franchissent la porte, enfin, en tout cas, moi quand j'y vais, alors j'y vais pas trop souvent justement parce que c'est trop puissant, c'est trop intense. Moi, la dernière fois que j'y suis allée, il y a une dame qui s'est mise à pleurer. Mais c'était de joie aussi. Enfin, elle nous a expliqué tout le bien que ça lui faisait de qu'on s'occupe d'elle en fait, et qu'elle, elle s'occupe d'elle.
Et avec l'association, du coup, vous plaidez pour la prise en charge des soins, t'en parlais juste avant. Qu'est-ce qui est mis en place par le gouvernement justement pour cette prise en charge?
Alors il y a eu, comme je disais, quand même une évolution positive. Donc maintenant, il y a un parcours personnalisé de soins, ça s'appelle le PPS, qui... permet d'accéder à un panier de soins de support qui, bon, il y a une liste, hein, c'est des soins psychologiques, nutritifs, certaines activités physiques. Mais nous, ce qu'on a constaté, c'est des disparités déjà territoriales. Donc il n'y a pas malheureusement tout le monde qui en a accès. Donc c'est selon qu'on habite à la campagne, à la ville, selon les hôpitaux. Mais c'est aussi selon nos capacités financières. Et s'il y a certains soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale, la plupart, comme le yoga, nous on pense que le yoga peut apporter beaucoup, le shiatsu, ou alors même de la colorithérapie. On apprend aux gens à reprendre confiance en s'habillant avec des couleurs, c'est s'occuper de soi. Peuvent être financés et alors il y a eu bon il y a eu des avancées mais on pense qu'on peut aller encore plus loin en élargissant le périmètre de remboursement
et pourquoi aujourd'hui c'est à hauteur de combien
alors aujourd'hui il y a un parcours alors bon il y a des soins qui sont financés par la Sécu mais il y a aussi un parcours de soins qui a été créé en 2019
avec la ministre par la loi, de la santé à l'époque Agnès Buzyn.
C'est ça. Ouais. Et en fait, ce qui a été mis en place, c'était pour l'après-cancer. Donc c'est un parcours et qui est de 180 euros par an. Donc
ce qui représenterait
à Paris, puisque ici c'est Paris FM, bah c'est 3 séances de psy, pas trop cher, on va dire, par an. On peut alors bon, on sait que il y a des difficultés actuelles, mais on pense qu'on peut faire mieux et surtout on pourrait aussi, enfin pour l'instant c'est juste un bilan d'activité physique et un accompagnement nutritif et psychologique.
D'accord. Et toi Fanny, tu nous disais que t'as plusieurs patientes qui ont été malades du cancer. Comment est-ce que ces accompagnements-là sont essentiels, selon toi?
Oui, je pense qu'ils sont essentiels et même centraux. Je pense qu'on en parle encore peu aujourd'hui pour les personnes qui traversent le cancer de ce que moi j'appellerais des violences hospitalières. Et malheureusement, à cause du manque de formation des personnes accompagnantes, moi j'ai entendu des histoires, des mots parfois tragiques du côté de mes patientes, mais aussi dans ma propre vie, puisque j'ai été auprès de ma mère et ça a été une chance pour moi qu'elle me laisse cette place à ses côtés dans tout ce qui est ce parcours dont vous témoignez, la chimiothérapie, la radiothérapie. Et j'ai une anecdote aujourd'hui que je trouve intéressante à partager, où à un moment donné de son parcours à elle, elle a été en soins palliatifs, mais je précise qu'elle en est sortie. Et durant ce moment-là, elle a eu un mal de tête, elle a demandé à une infirmière une aspirine et elle a demandé si l'aspirine était recommandée dans le cadre du cancer du sein. Et cette infirmière, qui était sûrement pas mal intentionnée, lui a dit, avec ce que vous avez, de toute façon, aujourd'hui, vous pouvez tout prendre. Sous-entendu que de toute façon, c'est la mort qui l'attend. Alors fort heureusement, ma maman était psychologue, donc on en a discuté, on en a ri, on a nourri justement une idée de livre qu'elle était en train de faire, donc ça a pu être repris. Mais imaginez ce genre de phrase avec des personnes moins armées, ce genre de phrase avec des personnes peut-être plus jeunes à ce moment-là du parcours. C'est tout simplement destructeur. Et puisqu'on en parle, je voudrais raconter une autre anecdote où à un moment donné, ma maman qui était trop faible a refusé une chimiothérapie juste pour pouvoir la faire un peu plus tard. Et puis, y a des choses qui ont fait que physiquement ça allait plus mal et nous étions elle et moi face à un médecin qui était un interne de remplacement qui lui a dit que en fait elle allait tellement mal qu'il était tout à fait possible qu'elle meure demain. En fait, il a été capté.
C'est un peu violent quand même.
C'est violent pour elle et c'est violent aussi de le dire. J'étais plus jeune à ce moment-là et de pouvoir le dire comme ça sans prendre de gants, je trouve que c'est destructeur et surtout j'ai appris aujourd'hui que c'est hors la loi. Pourquoi c'est hors la loi? Parce que je travaille de près sur ces questions-là dans nos dialogues avec Maître Besma Maghrebi, qui est spécialiste dans le droit médical, qui m'apprenait aujourd'hui, et je pense que nos auditeurs doivent l'apprendre, que tout médecin a une obligation de psychologie dans la manière de dire à l'autre ce qu'il traverse et ce qu'il a. Donc aujourd'hui, tout simplement, on ne peut pas dire à quelqu'un « tu vas mourir ». Et même si je le comprends, parce que certains médecins peuvent être très désarmés et que c'est très dur d'être dans ce monde-là, je le comprends, mais ça reste quand même inacceptable. Je pense que les gens doivent se former parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de douleurs et aussi on est dans un monde où il pourrait y avoir de grandes réparations avec un tout petit peu plus de psychologie. Donc pour en revenir à ta question, effectivement, je pense que ces soins qui sont périphériques pour moi sont le centre et le cœur au sens même symbolique de la guérison. Et qu'on devrait mettre beaucoup plus de financement d'un point de vue gouvernemental dans toutes ces questions-là, parce que je pense qu'il y aurait plus de guérison, il y aurait plus de beaux chemins, il y aurait plus de transcendance. Donc pour moi, c'est tout simplement profondément essentiel. Et aujourd'hui, ce qui est mis en place n'est pas assez. Et par exemple, en Alsace, j'ai beaucoup à dire sur ce sujet, par exemple, en Alsace, il y a des personnes qui accompagnent notamment dans les soins palliatifs, mais c'est encore et toujours des personnes qui sont bien intentionnées mais qui parlent constamment de la mort. Et donc on se retrouve constamment avec des gens qui veulent aider à partir, des gens qui sont en vie, qui resteront peut-être en vie, qui ont encore beaucoup de choses à faire. Et pour moi, c'est on vole des instants finalement à des personnes malades qui pourraient guérir. Donc je suis pour un accompagnement qui ne connecte pas à la mort, mais qui connecte à la vie. Un accompagnement qui n'est pas un accompagnement pour bien partir, mais au contraire, qui est un accompagnement pour bien rester, reprendre des forces, reprendre du souffle et reprendre son chemin à la fin de la tempête avec un pas peut-être plus affirmé.
Alors à ce sujet, pardon. Moi, je voulais parler en fait du tabou que représente le cancer. Parce que je vous remercie en fait, de faire cette émission. Octobre Rose, je pense que ça a été créé pour briser les tabous, donc c'est formidable que ça existe et que ce soit pendant un mois, que ce soit aussi de plus en plus connu. ce que je voulais dire là-dessus, c'est que dans la tête des gens, cancer égale mort. Et là, ici, on parle du cancer du sein. Actuellement, le cancer du sein, il y a 80% des gens qui vont en guérir. Et en fait, cancer du sein, c'est cancer avec un S. Donc il y a énormément de cancers différents. Il y a en fait quasiment un cancer par personne. Et par rapport à ça, pour moi, il y a deux choses. Une, c'est d'abord ne pas oublier les patientes qui sont atteintes de cancer métastatique. Donc elles, en fait, elles vont avoir des traitements à vie. Et ce sont des cancers donc très graves qui vont les impacter pour toujours en fait, même si elles peuvent continuer à vivre avec la maladie. C'est pour ça que l'accompagnement en fait et les soins de support sont primordiaux pour eux. Mais pour celles et ceux qui ont des cancers non métastatiques, beaucoup vont guérir aujourd'hui et les chances de guérison sont facilités, c'est la deuxième chose que je voulais dire, par un dépistage. Et en fait, donc j'appelle au dépistage, actuellement on parle de la mammo pour les plus de 50 ans, beaucoup oublient, mais et c'est vrai que là-dessus, nous on voit de plus en plus de jeunes, et quand je dis jeunes c'est moins de 40 ans, qui viennent à l'asso, à l'hôpital, pareil. Il y a 10 ans, c'était un ovni, une personne qui avait moins de 40 ans avec un cancer du sein. Aujourd'hui, c'est un cinquième des patientes dans les salles d'attente. Je ne connais pas les chiffres exacts et j'aimerais bien les avoir sur combien ça représente. Mais je pense qu'il y a une augmentation. En tout cas, nous, on l'observe et j'aimerais bien savoir s'il y a des études qui les... Qui confirme cette observation. Et là-dessus, ce qui serait extraordinaire, c'est que toutes les femmes apprennent la palpation, apprennent à vérifier sans peur, en fait. Parce que j'ai l'impression que ça bloque les gens, le mot cancer, de faire les premières analyses, d'aller faire des premières imageries. Il y a des gens qui vont repousser parce qu'ils vont se dire « mais si j'ai un cancer, en fait, demain je meurs ». Non, c'est une minorité aujourd'hui pour le cancer du sein. Et plus on détecte tôt, moins les traitements vont être lourds aussi. C'est-à-dire qu'un cancer, ça ne veut pas dire une chimio, forcément. Et une chimio, non, ça peut être 3, ça peut être 6. Et puis, il y a plein de chimios différentes qui sont vécues de manière différente au niveau corporel. Donc, j'appelle aussi les gynécos à demander à leurs patientes si elles ont si elles ont eu peut-être leur grand-mère, peut-être leur tante.
Des antécédents familiaux.
Voilà. C'est pas forcément la maman et une grand-mère peut avoir eu deux garçons et après que des petits-fils avec une seule petite fille. Du coup, elles sont pas du tout au courant qu'il y ait des antécédents. Personne n'en a jamais parlé dans la famille parce que c'était un tabou. Donc il faut y penser, il faut que les gynécos alertent et apprennent les jeunes femmes à s'auto-palper pour connaître, pour savoir reconnaître et se faire diagnostiquer le plus tôt possible parce que là, les traitements, dans l'immense majorité des cas, vont être légers et vont permettre d'arriver à la guérison.
Tu fais bien de le rappeler. D'ailleurs, toi, Caroline, c'est l'autopalpation qui t'a permis de faire un examen. Et est-ce que toi, comme disait Fanny, est-ce que t'as eu ce retour de médecin qui était pas forcément malveillant, mais avec des paroles un peu crues?
Oui, j'en ai eu. Ouais. J'ai beaucoup d'anecdotes à ce sujet, mais on n'aura pas assez du temps de l'émission. Mais comme dit Fanny, c'est pas de la malveillance, c'est un manque de formation, c'est un manque de temps, malheureusement. Oui, par exemple, aujourd'hui encore, je me retrouve confrontée à des jugements parce que j'ai subi une double mastectomie. Avec reconstruction à plat, c'est-à-dire que je ne veux pas de reconstruction avec volume et j'ai voulu un fini plat, puisque je considère qu'une femme ne se définit pas par une paire de seins et que je n'avais pas envie d'avoir trois opérations, puisqu'il faut savoir qu'une reconstruction mammaire avec volume, c'est au minimum trois opérations. Je n'avais pas envie de ça. Quand j'ai exprimé mon choix, c'était pourtant une femme que j'avais en face de moi. Tout de suite, on m'a dit « mais... vous avez moins de 40 ans, je peux vous faire une belle et grosse poitrine, je comprends pas ça. »
Avec ces termes-là.
Avec ces termes-là. Encore régulièrement, mon kiné, puisque je vais le voir, je suis obligée d'aller le voir une fois par semaine à cause du curage et du drainage lymphatique, puisque ça fait partie des séquelles qui sont liées à la chirurgie. Mon kiné, qui est un homme pour le coup, me demande régulièrement si mon mari a bien compris ce que ça engendrait... dans notre vie de couple, que je n'ai plus de seins. Voilà, j'ai aussi des difficultés dans l'intimité avec mon mari aujourd'hui. Et une de mes oncologues m'a dit, mais madame, attention, le mot va arriver, mais madame, vous n'avez pas le vagin d'une femme de 80 ans, il faut vous forcer un peu et puis ça reviendra un peu, quoi.
D'accord.
Voilà, ça c'est le genre de violence hospitalière dont tu parlais tout à l'heure, Fanny, auquel je peux faire face très régulièrement dans mon parcours, et aussi bien d'hommes que de femmes.
Et du coup, niveau, justement, avec ton mari, niveau libido, sexualité, ça se passe comment ?
Ça reste très très compliqué. D'ailleurs, l'accompagnement avec une sexothérapeute, pour moi, me paraît indispensable dans un parcours de soins. J'en profite, alors je le dis assez régulièrement quand j'en parle avec des amis. Faut savoir que, à la suite d'un cancer de la prostate, quand il y a des séquelles, les dispositifs qui sont mis en place pour les hommes pour retrouver une vie sexuelle active sont complètement pris en charge par la sécurité sociale, et c'est pas le cas pour un cancer du sein. Donc quand on a besoin, nous, de se faire prescrire, ça peut être des lubrifiants, ça peut être tout un tas de choses, des ovules, des dilatateurs vaginaux, etc. Il y a plein de choses qui sont proposées à la femme, mais rien n'est pris en charge. Donc pour espérer retrouver une vie normale, et là je ne parle même pas de vie sexuelle puisque je parle juste des effets secondaires qui sont liés par exemple à la sécheresse vaginale, eh bien quelquefois il faut débourser entre 80 et 100 euros par semaine juste pour avoir une vie de femme normale.
On est encore dans un flou, un peu un système patriarcal qui prend le dessus, j'ai
envie
de dire.
Tout à fait.
Et au niveau des médecins, est-ce que t'es voir plusieurs avis ou tu t'es à chaque fois arrêté sur le premier avis ?
Alors, j'ai pas eu le besoin, c'est vraiment ça qu'il faut dire. J'ai pas eu le besoin d'aller consulter. Par contre, j'accompagne des patientes aujourd'hui qui ne se sentent pas en confiance, mais je pense que c'est juste un manque d'explication de la part du médecin qu'elles ont en face d'elles, quelquefois, par rapport au diagnostic de leur cancer, et qui, elles, en fait, je leur dis, ne vous posez pas de questions si vous ne vous sentez pas bien dans la relation que vous avez avec votre oncologue ou votre chirurgien, ou si vous n'avez pas compris et que vous n'avez pas les réponses à vos questions, n'hésitez pas à aller demander un second avis. Et d'ailleurs, il y a des services qui sont tout à fait réactifs pour ça, à l'hôpital Curie ou à Gustave Roussy, où il y a un service médical qui est exclusivement dédié au second avis. Il suffit d'envoyer son dossier et on a un second avis qui généralement la plupart du temps est conforme au premier. C'est juste que la patiente a besoin d'être rassurée, ce qui n'a pas été mon cas parce que voilà, j'ai suivi ce qui m'a été dit et ça me paraissait très clair dans ce qui m'avait été annoncé.
Alors tu m'as dit en off que l'association avait complètement changé ton parcours.
Oui.
Tu peux nous expliquer un peu comment?
Alors en fait, comme j'expliquais en début d'émission, la première partie du parcours, je l'ai subie parce que j'ai pris de plein fouet l'annonce. Je me suis laissée guider dans la somme de rendez-vous qu'on m'avait donné, d'examens, d'opérations, etc. etc. Je suis restée un peu au fond de mon lit. à me désespérer de me voir changer physiquement, de ne pas comprendre ce qui se passait. Et puis, sur la seconde partie du parcours, j'ai commencé à entendre ce mot de soins de support. Donc, j'ai été chercher. C'est là que j'ai trouvé l'association Étincelle, qui m'a... Alors, à l'époque, il y avait le confinement. Donc, j'ai fait beaucoup de choses en visio, ce qui m'arrangeait bien, parce que comme j'étais trop fatiguée, je ne pouvais pas sortir. Mais ça a été déjà un premier pas pour moi, pour voir d'autres personnes. Et puis, dans un second temps, quand le déconfinement a été annoncé, j'ai pu aller dans les locaux. Et là, ça a été une vraie découverte, puisqu'on se... on est avec des femmes qui ont quasiment les mêmes parcours, même s'ils ne sont pas identiques, mais on traverse les mêmes choses, on se dit les mêmes choses, on a les mêmes questions et on se comprend sans forcément se parler pendant des heures. Alors des fois on parle que de ça, des fois on parle de tout à fait autre chose, mais il se passe, il y a quelque chose, il y a une magie qui se fait quand on est entre nous. En plus, j'ai pu avoir accès à plein de nouvelles activités que je ne connaissais pas. Je me suis remise à la danse. J'ai fait de l'hypnothérapie aussi. C'est quelque chose que je n'avais jamais pratiqué et aujourd'hui qui me fait un bien fou. Voilà, donc j'ai découvert plein d'activités en plus auxquelles je n'aurais pas pu prétendre parce que financièrement, déjà, c'est un coût. Et là, l'association, avec une somme d'une cotisation de 20 euros minimum à l'année, nous permet d'avoir accès à toutes ces activités quand on le veut et quand on en a envie.
Alors Fanny, je me tourne vers toi. C'est cet accompagnement derrière le fait de parler, est-ce que ça aussi c'est essentiel? Est-ce que tu vois chez tes patientes que ça aide?
Oui, tout à fait. Alors moi, je crois beaucoup à la verbalisation, que ce soit par écrit ou que ce soit dans la parole face à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on peut le faire avec un autre, mais on peut aussi le faire avec soi-même, dans l'écriture, dans l'expression artistique aussi, parce que c'est une forme de langage. Je pense que quand on traverse un cancer de manière générale et un cancer du sein de manière plus précise, c'est vraiment important que des mots puissent se poser, que quelque chose puisse sortir de soi, puisqu'on vit quelque chose dans le corps. Et qu'en fait, c'est traduire ce que vit le corps par les mots, quelque part, est forcément soulageant. Donc moi, dans mon accompagnement, puisque je suis psychologue clinicienne, ça passe beaucoup par les mots. Mais aujourd'hui, je me suis formée à l'hypnose, technique d'activation de la conscience de l'hôpital Paris-Saclay, que je recommande vraiment, que je conseille, parce que peut-être qu'au début de ma carrière, l'hypnose ne me parlait pas autant. Mais aujourd'hui, je vois vraiment qu'avec l'hypnose, qui donc n'est pas que la verbalisation du patient, c'est aussi... en tant que praticien, finalement, on pousse celui qui est malade à utiliser son imaginaire pour aller mieux. Je vois de grandes améliorations chez mes patients. Et d'ailleurs, cette équipe qui a créé cette manière d'être dans l'hypnose travaille dans les soins palliatifs. Et en fait, ils le disent qu'ils voient une grande amélioration. Donc, je crois en cette technique. Et donc, je pense qu'il y a différentes thérapies qui cherchent finalement toute la même chose. Que la personne qui a eu un cancer arrive à retrouver son chemin, le pourquoi du cancer, parce que tu parlais dans cette introduction de tout ce qui peut contribuer à ce qu'on... tout le contexte environnemental qui peut créer un cancer. Mais aujourd'hui, pour les cancers du sein, il y a aussi l'hypothèse du choc traumatique. Et moi, souvent, dans ma clientèle, je l'ai quand même vu. C'est-à-dire que quand on creuse, il y a souvent un choc très très violent et quelques années plus tard, l'apparition d'un cancer. Alors aujourd'hui, la science ne peut pas dire de manière précise choc traumatique égale cancer, bien sûr, mais moi c'est une hypothèse que je pose. Et donc justement, travailler en amont sur tout le contexte avec la psychologie me semble très utile et très, très important. Donc c'est pour ça que pour moi, la psychologie, je le mettrai aussi dans tout ce qui est à la fois périphérique et très central pour aller mieux, pour se retrouver, pour faire quelque chose de ce cancer. Et d'ailleurs, souvent, on dit se battre contre le cancer. Mais moi, j'ai des patientes qui ont préféré se dire se battre avec le cancer, que ce que l'on a en soi qui est en train de détruire, on en fasse un ami qu'on va quitter un jour. Et pour certaines, mais pour certains, c'est plus facile. C'est plus facile de se sentir se battre avec un élément que l'on va chercher à expulser que d'être dans une bataille finalement contre la maladie, où on peut avoir plus l'impression qu'il y a une difficulté, il y a un autre type d'enjeu. Donc vous voyez, là, je vous parle de mots. Parfois, la symbolique joue beaucoup dans la manière dont on va aborder sa propre maladie. Et la psychothérapie, c'est aussi une question de mots. D'où l'intérêt de verbaliser, mais d'être aussi en face de quelqu'un qui va poser d'autres mots, un autre éclairage.
Les mots ont leur importance.
Ah oui, ça j'en suis. Vous parlez de psychanalyste, je suis convaincue que les mots ont leur importance. D'ailleurs, nous sommes devenus dans les mots, puisque c'est à travers les mots qu'on dit notre propre identité. Et donc je pense que beaucoup de choses peuvent se réparer à travers les mots.
Mais d'ailleurs, nous, c'est étincelle, rebondir avec un cancer. Et c'est vrai que les femmes et puis quelques hommes qui viennent à l'association disent qu'ils ne sont pas venus que chercher un soin esthétique, une danse pendant une heure ou un massage. En fait, c'est y a un vrai désir en fait, de reprendre soin de soi, de se recentrer sur soi, de se retrouver. Et c'est assez impressionnant d'écouter les témoignages de toutes ces personnes qui disent que ça change leur vie et parfois positivement parce qu'elles retrouvent une énergie en eux qui va les mener vers bon, on dit la rémission puis la guérison. Donc cet accompagnement que nous on souhaite apporter aux personnes, c'est considérer la personne dans un tout. En fait, c'est pas que une personne qui va être malade à un instant T, c'est cette personne qui est en train de traverser
une tempête,
une étape de sa vie, et qui va vouloir en fait, et qui est en survie. En fait, on voit, c'est vrai, ce vocabulaire de combat qui est souvent utilisé, cancer avec un combat vraiment fort et des images véritablement de lutte, c'est parce que on est en mode survie et ça remet en question la personne entière qui va s'interroger sur soi au plus profond d'elle-même et vouloir s'occuper d'elle en fait.
Et toi, Caroline, est-ce que tu t'es posé ces questions de pourquoi ce cancer est venu, qu'est-ce que j'ai fait
Alors,
ou pas?
Je serais un peu moins... par rapport à ce que disait Fanny. En fait, dans le cadre de mon diplôme universitaire de patiente partenaire, on rencontre des oncologues qui viennent avec leur esprit très scientifique, évidemment, et qui nous expliquent comment un cancer naît. Comment vit une cellule cancéreuse, etc. Et je me suis retrouvée pendant 3 heures de cours face à un scientifique et face à des copines de DU qui, elles, mettaient ça sur l'émotion et la psychologie et lui qui mettait ça sur le côté scientifique. La discussion n'a jamais pris de fin puisqu'en fait, c'était deux mondes qui s'entrechoquaient. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de raccrocher ce qui m'était arrivé à un événement particulier. Mais les autres, tous ceux qui m'entourent régulièrement, ont besoin de me rappeler que potentiellement ce cancer est arrivé parce que l'année qui a précédé, j'ai eu deux épreuves assez compliquées et qui m'ont beaucoup affectée. Mais moi, j'ai pas besoin de ça, en fait. Le cancer est arrivé, soit, ok. Il est là, qu'est-ce que j'en fais en fait? C'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, c'est de savoir comment je vais pouvoir transformer ça et ce qui va se passer pour l'avenir.
Alors, tu disais patiente partenaire.
Oui.
Tu peux nous en parler un peu, puisque depuis, tu as été diplômée de la Sorbonne, de l'Université de la Sorbonne.
Oui, de la Sorbonne Université des patients et aussi de l'UFPP, l'Union francophone des patients partenaires, auprès de qui je fais un deuxième DU sur la démocratie en santé et les patients partenaires. En fait, c'est un rôle qui est en train, tout est à écrire, qui est en train d'arriver dans les hôpitaux et qui permet à des patientes comme moi, je dis patientes parce que la plupart que je rencontre sont des femmes, de structurer leur vécu de la maladie, leur expérience pour en faire profiter les autres et de ne pas être que dans le côté technique qu'un médecin, un oncologue ou un chirurgien pourrait avoir. Donc aujourd'hui, grâce à ces diplômes, je suis reconnue et j'ai été formée. On m'a donné les outils nécessaires parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je veux aider des patientes qui sont nouvellement diagnostiquées à vivre leur parcours de soins différemment et à ne pas le subir comme moi j'ai pu l'avoir. Et surtout, les aider peut-être à trouver les ressources nécessaires, soit qu'elles ont déjà en elles, soit auprès des associations comme Étincelle. Parce que même
si on peut trouver des choses sur Internet à droite, à gauche, je me dis que... Parce que moi, j'ai été obligée d'aller les chercher moi-même. Et là, en fait, je veux un peu leur mâcher le travail et les aider à trouver ces ressources sans qu'elles perdent de l'énergie et du temps inutilement et qu'elles se concentrent sur d'autres choses.
Est-ce que c'est pas un peu aussi ce que les médecins devraient faire de base ?
Alors, on aimerait beaucoup. Ouais. Et d'ailleurs, un des volets que l'on cherche à faire se développer par les patients partenaires, c'est d'aller dans les facultés de médecine pour aller travailler dans les cursus des médecins. Et donc là, moi, par exemple, j'ai une très bonne piste et je vais aller à la faculté de médecine pour aller faire des jeux de rôle sur les protocoles d'annonce, par exemple, pour voir avec eux comment on pourrait, en changeant des fois juste un terme ou des mots ou une attitude, ne pas détruire psychologiquement tout de suite la patiente, alors qu'en fait, en utilisant des termes différents, on pourrait lui donner un espoir et lui faire vivre son parcours de soins différemment.
Encore une fois, les mots ont leur importance.
Ouais. Et d'autant plus, tout à l'heure, Caroline parlait de besoin, son besoin à elle. Et j'insiste sur le fait que le cancer est une maladie universelle, mais avec un parcours singulier. C'est-à-dire que chaque personne doit s'écouter et sait intérieurement ce dont elle aura besoin. Donc effectivement, il y a des personnes qui auront besoin de travailler sur le futur et il n'y aurait pas forcément l'obligation de creuser dans le passé, comme des personnes auront besoin de travailler sur le présent et d'autres encore sur le passé. C'est vraiment très singulier la manière dont on a besoin de se soigner. Donc je dirais que ce n'est même pas des hypothèses qui s'entrechoquent, c'est des parcours de vie. Et peut-être que seuls les gens qui ont vraiment eu un cancer savent vraiment ce que c'est que ce parcours et le fait que ce soit par la temporalité du futur ou du passé, il y a un travail à faire qui a à voir avec sa propre singularité.
Et aujourd'hui, parce que tu es encore dans un processus, Caroline, tu dois être traitée pendant 8 ans encore.
Ouais.
Et comment tu le vis ? Comment tu te sens ?
On va bien. Je suis d'un naturel à prendre le dessus. J'ai le sourire. Je suis là. J'ai un traitement. Certaines, malheureusement, n'ont pas de traitement aujourd'hui et donc elles en meurent encore. Moi, pour l'instant, les molécules fonctionnent. Donc voilà, il y a des suivis encore très réguliers parce que la caractérisation de mon cancer fait qu'il faut que je sois encore suivie de près. Donc tous les 3 mois, je fais des bilans. Le terme de rémission, je l'attends impatiemment, mais il n'arrivera pas tout de suite. Mais je sais qu'il arrivera à un moment donné ou à un autre. Donc voilà, je prends mes cachets, je fais mes piqûres et j'essaye de vivre normalement, même si la qualité de vie est diminuée. Que j'essaye de faire entendre aux oncologues que la qualité de vie, c'est hyper important dans un parcours de soins, eh ben je trouve les ressources nécessaires pour mieux vivre ça.
Et si, si les soins de support, ça améliore la qualité de vie, on a vu aussi que ça améliorait l'observance des traitements. Parce que c'est vrai que parfois, comme ce sont des traitements qui ont des effets secondaires, alors c'est très variable d'une personne à l'autre. Hein, l'hormonothérapie, ça peut être très très bien vécu, mais comme très très mal vécu par la personne, avec des effets secondaires embêtants, voire très très dérangeants dans le quotidien.
Le fait d'avoir des soins de support.
On était sur les soins de support, c'est ça.
Merci Caroline. On observe en fait que les soins de support améliorent la prise des traitements par les patientes. Elles vont plus avoir tendance à prendre leurs médicaments, à aller suivre ce que le médecin en fait a prescrit. L'hormonothérapie, avant c'était 5 ans, maintenant c'est la plupart du temps 10 ans, c'est très long. Okay. C'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'a peut-être pas envie de prendre une pilule tous les matins, au bout de 8 ans, qui rappelle qu'on a eu un cancer à l'époque, même si ça augmente les chances de ne pas avoir de récidive. Donc, les soins de support, ça peut aider à continuer dans la durée, à ne pas oublier sa pilule et à suivre ces traitements qui sauvent des vies, en fait.
Je veux revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Caroline, sur des gens qui te ramenaient sur ce que tu as dû faire pour des raisons ou quoi. Est-ce que ces gens-là, tu les gardes autour de toi ? Est-ce que tu fais un tri un peu quand il t'arrive ça ?
Alors, il y en a une, je suis obligée, c'est ma mère. Ma petite maman qui est très pragmatique et qui...
a besoin d'avoir des raisons. Voilà. Tout à l'heure, on en parlait, en fonction de comment on va vivre son parcours, les proches, certains vont être là, d'autres vont s'éloigner. En fait, le tri, il se fait assez naturellement quand l'annonce se fait, que ce soit la patiente qui le fasse ou que les plus ou moins proches l'apprennent après. Mais j'ai des amis qui ont tout de suite relevé les manches et qui ont voulu combattre avec moi. J'en ai d'autres qui se sont éloignés. Je pense que c'est par peur, en tout cas je l'espère. Ils ne sont pas encore revenus. Je n'ai pas envie qu'ils reviennent dans mon cercle d'amis parce que je me dis que s'ils n'étaient pas présents au moment de cette épreuve-là, qui a été quand même très compliquée, c'est qu'ils ne méritent pas d'être un ami. Et d'autres se sont révélés. Certains que je pouvais avoir en contact comme ça, je sais pas moi, tous les 3-4 mois, eh bien eux se sont montrés très très présents, ont voulu être voilà, au quotidien, ne serait-ce que le petit message qui va bien quand on part en chimiothérapie pour dire j'espère que ça va aller, je pense à toi, on m'a envoyé une petite chanson, on m'a envoyé des petits colis, bah ça c'est des petits trucs, ça paraît pas grand chose, mais au niveau du moral c'est extraordinaire d'avoir ces petits trucs là pendant son combat.
Très bien, merci. Aurore, où est-ce qu'on peut... parce que l'association Étincelle, toi, Caroline, tu t'es tombée dessus en faisant, fouillant sur Internet. Où est-ce qu'on peut vous trouver? Comment est-ce qu'on peut vous trouver?
Alors, on a un local qui se trouve à Parmentier, au métro Parmentier dans le 11e, grâce à la mairie de Paris, justement. Et un autre à Boulogne, mais qui est en partage avec d'autres associations. Donc nous, on est présents que le lundi. Et il y a aussi une autre antenne indépendante qui se trouve à Montpellier. Donc au niveau de Paris, c'est dans le 11e arrondissement, rue des Trois Bornes. Vous n'hésitez pas à passer, il y a quasiment tout le temps quelqu'un. On a heureusement énormément de bénévoles, enfin beaucoup de bénévoles. Si vous voulez être bénévole aussi,
n'hésitez pas.
Vous êtes les bienvenus. C'est une expérience qui apporte tellement, parce qu'on est, on est confronté à des gens qui veulent juste vivre en fait. Donc c'est magique. Mais du coup, les bénévoles sont présents et vous ouvrent la porte sans problème. Donc rue des Trois Bornes à Parmentier.
Et quelle est la démarche à faire pour une patiente, pour approcher votre association?
Alors,
s'il y a des démarches à faire?
On est ouvert aux patients, mais également aux proches. Je voulais dire un petit mot sur les aidants, parce qu'on a beaucoup à apporter aux patients, évidemment, puisqu'ils sont impactés directement, mais tous leurs proches souffrent aussi pour la plupart et dépensent parfois une énergie folle à les accompagner. Donc on aide aussi ses proches. Donc vous êtes les bienvenus à l'association et il vous suffit de vous inscrire. Ça coûte 20€ par an et ensuite tout est gratuit. Vous pouvez participer à tous les ateliers que vous souhaitez.
Tu fais bien de parler des proches. Je me tourne vers toi, Fanny. Les proches, est-ce que tu as dans tes patients et patientes, est-ce que tu as aussi les proches qui viennent te voir, qui sont directement impactés par ces choses-là?
Oui, beaucoup. Dans ces hasards qui ne sont pas les hasards, j'ai beaucoup d'enfants, enfin d'enfants devenus adultes, mais des enfants de parents qui sont en train de vivre ce parcours. Et ce que je conseille toujours, c'est finalement effectivement d'avoir recours au deuxième avis, si jamais il y a de l'angoisse du chemin qui est proposé. Parce qu'il y a... On vit beaucoup mieux finalement le cheminement et le chemin du côté du cancer quand on croit en ce que l'on fait, quand on croit en la chimio qu'on reçoit, quand on croit à un traitement qui n'est pas de la chimio, parce qu'effectivement aujourd'hui il y a beaucoup d'autres choses qui sont mises en place. Mais cette croyance, il faut aller la chercher, parce que parfois on fait face à un médecin et on se dit est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut faire. Donc moi, les enfants que j'accompagne, les enfants devenus adultes, moi-même j'étais un enfant devenu adulte, je les accompagne déjà dans le fait de chercher à être convaincus, d'aider leurs parents aussi en n'étant pas dans l'angoisse de la mort. Et je reviens sur ce point. Pour moi, le cancer aujourd'hui, il y a de l'espoir partout. il y a effectivement de l'espoir parce qu'on en guérit, de manière flagrante aujourd'hui. Je crois que tu parlais des chiffres, 80% de femmes qui...
Pour le cancer du sein.
Voilà, pour cancer du sein qui guérissent. Mais même chez les femmes qui sont métastasées, je parle souvent de cet exemple parce qu'il m'a beaucoup apporté. Dans le cadre d'un visiteur académique que je faisais à l'université d'Oxford, j'ai croisé une autre femme qui était à l'université d'Oxford, une grande chercheuse de l'Université libre de Bruxelles, qui continuait son chemin de recherche, qui a apporté vraiment beaucoup à la société. Et en fait, cette personne, dans son histoire, elle ne le mettait pas en avant, mais ça faisait 13 ans qu'elle était condamnée. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait des métastases sur les os. Donc là, on dit quelque part que c'est très grave quand on en est là. Elle avait même préparé sa fille, qui était très jeune à l'époque, à lui dire au revoir, parce qu'on lui avait dit qu'elle n'avait plus que 2 ans à vivre. Et ça faisait 13 ans. Et ça faisait 13 ans qu'elle avait repris sa route, qu'elle faisait des choses très importantes pour la société, et tout simplement qu'elle était en vie. Et qu'elle transmettait une incroyable lumière aux gens autour d'elle. Et d'ailleurs, elle a vu sa fille se marier, avoir son enfant. Donc, elle a vieilli. Le temps a existé pour elle, alors qu'on lui avait dit qu'elle ne pourrait plus vivre. Donc, c'est pour ça que je dis que l'espoir est partout. Et que même quand on a le cancer le plus grave, finalement, on ne sait pas. Et cette incertitude, elle peut être remplie de positivisme. Et moi, ça m'a apporté de rencontrer cette personne et de voir que finalement... Il y a cette vie qui se dessine et il faut être concentré sur la suite du parcours, sur la suite du chemin. Et c'est aussi ça qu'on transmet quand on est psychologue et qu'on accompagne les enfants d'eux, ou parfois les maris d'eux, ou les femmes d'eux, que finalement il faut être connecté à la vie. Et c'est un espoir qui est dans l'action. Il n'y a pas plus fort que l'espoir qui est dans l'action. Parce que parfois, quand on est que dans l'espoir, ça peut être juste un souhait. Mais quand on est dans l'espoir qui se corrèle à l'action, on est vraiment dans un chemin, on marche et on se sent marcher et on sait qu'on va quelque part.
Alors moi, je vous invite à lire un livre qui a bouleversé ma vie, qui est « Guérir » de David Servan-Schreiber, qui est un neuropsychiatre. Et malheureusement, lors d'un contrôle dans le cadre d'examens qu'il faisait à l'hôpital, il s'est trouvé une tumeur au cerveau par hasard. Et on lui prédisait 6 mois peut-être de vie. Du coup, il a complètement changé sa manière de voir la médecine. C'est un médecin, c'est un neurologue à la base, psychiatre. Et il s'est tourné vers le corps, vers la cohérence cardiaque, vers... le yoga, il a dit qu'il avait aussi un chien, un animal de compagnie, vers la nutrition aussi, en mangeant différemment, en vivant différemment. Il a vécu 20 ans avec une tumeur au cerveau.
Au lieu de 6 mois qu'on lui avait donné.
Voilà, c'est pas un cancer du sein, le cancer du cerveau c'est extrêmement grave par rapport au cancer du sein. Et il a retrouvé une qualité de vie, il explique en fait dans son livre il explique qu'il y a plein de manières de s'occuper de soi et qu'il n'y a pas une manière qui est la bonne. Si on vous dit ah moi c'est le yoga, bah, c'est peut-être cette personne le yoga, mais vous ce sera peut-être le shiatsu ou encore autre chose. Il faut vous trouver votre bonne manière en fait de prendre soin de vous. Et ce qui est génial, c'est que dans Guérir il donne plein d'exemples et qu'il explique comment ça fonctionne.
Je recommande aussi ce livre. Servan Schreiber effectivement accompagne beaucoup de personnes qui traversent le cancer et moi-même ça m'a beaucoup accompagnée. Et effectivement on voit aussi ce qu'il a fait de ses 20 ans, c'est-à-dire qu'il est resté 20 ans alors qu'on le condamnait, et maintenant il y a toute une littérature qu'il a développée et qui fait qu'aujourd'hui nous en parlons dans cette émission et qu'il continue à aider. Et quelle grande réussite qu'est une vie où on continue à aider quand on n'est plus là à travers une expérience de vie. Donc effectivement je recommande totalement cet ouvrage qui est très accompagnant, ses ouvrages d'ailleurs, parce qu'il y a une grande littérature produite par lui.
Oui, il a aussi écrit un livre sur le cancer spécifiquement.
Et ben on le mettra dans la description du podcast. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup Fanny encore une fois d'être là avec nous. Merci Aurore. On mettra aussi en lien de la description toutes les informations sur l'association Étincelle.
Merci à vous.
Et merci Caroline.
Merci.
Avant de se quitter, tu as choisi un morceau qui est Invaincu de Stromae.
Ouais.
Pourquoi ce morceau?
Parce que tout est dit dans les paroles, je crois. Et que il donne une vraie pêche et un voilà, et puis c'est ma chanson de mon parcours.
Eh ben, merci beaucoup, Caroline. Et merci pour ta joie de vivre et ton rayonnement qui se transmet carrément. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode de On en parle sans tabou sur Mon Paris FM. Merci Jason à la technique et merci à Boubacar pour ses investigations. À très bientôt.
T'as plus de victoires que de défaites. T'en as remporté plus d'un. Tu crois que tu vas me la mettre? Même pas en rêve. Espèce de petite putain. 3 balles en pleine tête. Une pour ma grand-mère, mon grand-père et une pour mon cousin. T'as pas gagné la guerre, juste une barrette. Petit fantassin. Gauche, droite, droite, gauche. Front kick, balayette, des pénaltys. Pour 1 mois, 3 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Sans toi c'est déjà ça de prix. Ouais j'ai payé le prix. Et j'ai du mal à l'écrire. Et du mal à le dire, mais m'affaiblit. Debout, jusqu'au dernier cri. Putain de maladie. Tant que je suis en vie, je suis invaincu. Toujours invaincu.